Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spudzle, le podcast du gravel et du bikepacking, ici Richard Delhomme. Je ne sais plus à combien d'épisodes je suis et sincèrement, je m'en fiche totalement. Parce que là, je viens juste de terminer l'épisode avec Omar Di Felice et habituellement, j'enregistre, je laisse passer quelques jours, je fais ma petite intro, je fais le montage et je diffuse. Et là, exceptionnellement, eh bien j'enregistre tout de suite, à l'instant je viens de dire merci à Omar, tu peux couper ton ordinateur, tout va bien, parce que je suis encore sous le choc de ce qu'il vient de se passer. Omar Di Felice, c'est l'adversaire favori, pratiquement le meilleur ennemi de Sofiane. Vous avez écouté plein d'épisodes avec Sofiane Seyli, vous les avez adorés, et à chaque fois il explique ses batailles épiques, héroïques, avec Omar Di Felice, avec Ulrich Bartholomès. Et bien là, je viens de parler avec Omar, et c'était génial. Et il faut noter que Omar est italien, il parle évidemment italien, il parle anglais, et il parle un tout petit peu français. Et il m'avait dit, ouais, je parle un petit peu français, mais il faut que je prépare. Donc je lui ai envoyé les questions, ce que je ne fais jamais, évidemment, je ne prépare quasiment jamais les questions à l'avance. Donc là, je l'ai fait pour qu'il puisse préparer. Parce qu'il voulait absolument faire l'effort de répondre en français et que l'on fasse un épisode en français. Et j'ai déjà souligné par le passé la chance que j'ai et la chance que l'on a d'avoir accès à ces athlètes absolument géniaux qui nous répondent avec autant de gentillesse, avec autant de détails, qui prennent le temps à des heures pas possibles. Là, il est 22h. Et pourtant, alors que ce sont des champions incroyables. Et là, je viens encore de le faire avec Omar. Et putain, mais j'ai vraiment de la chance. Et je suis super content que vous en profitiez aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, sans plus attendre, Omar Di Felice, régalez-vous.
Voilà. Bon alors, Omar, tu vas tout de suite arrêter la modestie, la fausse modestie. Parce que là, tu viens de me dire, ma mère est algérienne, donc je suppose que ton père est italien, et tu parles français, et je cite, tu me l'as dit à l'instant, je parle comme ci, comme ça. Alors, quand on est capable de citer ce genre d'expression dans une langue étrangère, je suis désolé, c'est qu'on parle vraiment bien. Je suis désolé. Ouais. Arrête la fausse modestie tout de suite.
Ok, merci Richard. Bonsoir, merci pour ton invitation.
Merci à toi d'avoir invité, d'avoir accepté, et surtout quand je t'ai écrit, d'avoir accepté aussi vite, parce que quand je t'ai écrit, je crois que tu m'as répondu 3 minutes après.
Oh oui, je vais essayer de faire le mieux possible.
Ouais.
Mais et c'est une période avec beaucoup des appointements, j'ai beaucoup d'invitations par mon sponsor et après des festivals. So, je vais essayer de faire de mieux possible.
Mais c'est parfait. Et on va en parler tout à l'heure. Mais tu sais, j'avais fait un épisode avec Lael Wilcox et elle me disait, ouais, je parle bien français. Et puis, en fait, elle avait des expressions, mais typiquement françaises, tu sais, vraiment de gens qui parlent très, très bien, soit natifs, soit de gens qui parlent parfaitement. Et c'était super drôle parce que finalement, tu viens de me faire exactement la même chose en parlant très bien.
Le français, c'est la langue de cyclisme. Pourquoi les UCI, c'est Suisse.
Et oui, ça parle.
On parle français, et c'est la langue officielle de cyclisme.
Ouais, mais bon, les coureurs italiens, espagnols, belges, beaucoup ne parlent pas français. Par contre, les coureurs français qui courent à l'étranger sont obligés de parler la langue, tu vois. Je sais que ça ne va pas plaire, mais Lance Armstrong parlait parfaitement italien.
Laurent Jalabert.
Laurent Jalabert parle parfaitement espagnol. Johan Bruynel parle parfaitement espagnol.
Ouais, c'est ça.
Donc, on est obligé, au bout d'un moment, quand on veut s'intégrer correctement dans une équipe, il faut apprendre la langue.
Ah ouais, c'est ça. C'est des cultures. Mm.
Et toi, tu as été coureur élite. Et pourquoi tu es resté seulement une année professionnelle ?
Moi, j'ai fait seulement une année professionnelle. Pourquoi ? J'ai essayé de faire du cyclisme. Mais tu sais, c'est dans 2008-2009. C'est ouais. Pas une bonne année pour faire du cyclisme au niveau professionnel. Ouais. Il y a beaucoup de dopage, beaucoup de problèmes avec le team. Et c'est pourquoi que j'ai décidé de stopper, de quitter le professionnisme. Et tu fais du cyclisme juste pour ma passion. Et j'ai commencé à faire de longues distances. Et presque d'entraînement et après des aventures, des voyages et de backpacking. Et maintenant, on a ici à parler de ultracyclisme. Ça, c'est joli.
Et voilà. Et c'est idiot comme question, mais est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné le cyclisme pro par rapport à ce que tu vis aujourd'hui?
Non. J'ai reçu beaucoup des offres dans cette année. Mais je préfère de rester ici dans les ultracyclismes. Pourquoi je crois que c'est mon forme d'expression meilleure. Pourquoi j'aime vraiment les voyages avec mon vélo. J'aime beaucoup les ultracyclismes. J'aime beaucoup rouler pour une journée, deux journées, trois journées. Et j'aime beaucoup aller tous les Gobi déserts ou après dans l'Islande. C'est fantastique.
Et est-ce que tu as mis du temps à t'adapter à l'ultracyclisme, à devoir par exemple trouver toi-même la nourriture, à être vraiment autonome, à dormir peu, comparé à ce que tu vivais comme coureur sur route?
Quand j'ai commencé avec les ultracyclismes, dans le 2011-2012, il n'y a pas beaucoup de culture sur l'ultracyclisme et il n'y a pas beaucoup de notices. Et j'ai commencé à faire du ultracyclisme toute seule et j'ai essayé de faire le mieux possible avec mon vélo et j'ai essayé pas dormir, rouler très vite, mais année par année j'ai fait mieux et mieux et maintenant on a des athlètes et des courses qui s'est déroulé dans 3-4 jours et par exemple Sofiane Seyli, le Français Sofiane, il dort rien. Et ça c'est fou, mais c'est ça qui c'est maintenant les ultracyclismes. C'est un niveau vraiment.
Et Sofiane, c'est en plus d'être un adversaire et je suppose presque un ami, est-ce que c'est une source un petit peu de motivation pour toi? Parce que toi, tu as été coureur élite et pro, Sofiane ne l'a pas été. Sofiane, c'est un voyageur à vélo à la base, mais il a cette caractéristique de dormir pas ou très peu, alors que toi, tu peux rouler très vite. Et comment tu t'adaptes justement au rythme imposé par Sofiane?
C'est essentiel d'étudier les stratégies. Et tu sais, moi, je suis capable de rouler très vite dans les montagnes, par exemple. Mais moi, j'ai besoin de dormir une heure, deux heures par jour. Et c'est ça que Sofiane, quand je m'arrête, Sofiane, il veut rouler encore et encore. Ouais. Et il va me passer. Et après, je dois rouler très vite encore. Et ça c'est part of the strategy. Ultra cyclisme is not, c'est pas seulement le rouler vite, mais c'est à faire le meilleur possible dans un parcours. Il faut se pas arrêter, il faut se pas dormir et tu dois être capable de faire toutes ces choses dans le maximum temps possible. Et par exemple dans les courses de 1000 km, Sofiane c'est vraiment très fort. Pourquoi dans une course de 48 heures, 50 heures, c'est possible de pas dormir. Et c'est ça qui c'est les meilleurs trucs de Sofiane, qui c'est vraiment fort dans cette typologie de course. Et par rapport à moi, qui peut-être je suis plus fort dans, par exemple, le Race Across France, que j'ai gagné, c'est 2500 km. Et tu sais, c'est pas possible de pas dormir pas 5-6 jours. Et comme il y a de gérer le soleil, pour moi, c'est vraiment mieux. Pourquoi? Je peux m'arrêter 1 heure, 2 heures et après je vais rouler très vite. Et c'est ça qui va faire tous les athlètes qui ont fait des courses très longues comme la Race Across France ou la Transamérique, par exemple. Mmh.
Là, bientôt, tu vas à la Tout Volcano bientôt?
Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi cette année, je suis vraiment fatigué.
Ouais, tu as fait beaucoup de choses là déjà cette année.
J'ai l'inscription et peut-être je vais essayer de faire encore une fois la course avec Ulrich et avec Sofian et avec des autres coureurs. Et il y a aussi peut-être Steven, le Français qui a gagné là en Nordcap. Ouais. Et ça va être vraiment une épique bataille. Mais je ne sais pas si je vais être capable de faire la course ou si je vais seulement pour faire les voyages. On verra dans les prochains mois.
D'accord. On reviendra sur la Race Across France tout à l'heure parce que tu parlais de sommeil, de l'importance du sommeil. Toi, tu as besoin de dormir. Et celui qui menait juste devant toi, Clément, a poussé un petit peu trop loin sur le manque de sommeil et c'est ce qui l'a poussé à l'abandon. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je reprends les questions qu'on avait préparées ensemble. Là, tu étais... les derniers jours, ces derniers jours, quand on a discuté par Messenger, tu étais à un festival vélo. Ah ouais? Tu présentais un film sur ton projet à travers les Alpes. Tu peux m'en reparler un petit peu?
Ah oui, je suis allé à l'Italian Bike Festival, qui c'est cet festival en Italie. C'est très important pour ma partenaire. Pourquoi? C'est le principal festival de Shimano et de Villiers et c'est l'occasion pour présenter la Linea di Confine. Linea di Confine is the film de ma aventure dans les Alpes. Dans 2020, après le Covid, le lockdown, j'ai décidé de faire ces traversées et je suis parti à Trieste, et j'ai fait tous les Alpes jusqu'à Ventimiglia. Et j'ai roulé pour 4 jours et 23 heures avec des étapes de backpacking. Et j'ai fait tous les cols mythiques, le Trecimi-Lavaredo, le Zoncolan, et après Stelvio, et après tous les cols de le Tour de France aussi, col Daniel, et après le Fauniera, Saint-Peyre, la Lombarde aussi. Et ça a été vraiment une sacrée aventure. Pourquoi c'est vraiment le vrai esprit de ultracyclisme et de cyclisme. Pourquoi tu sais que le cyclisme, l'héroïque, le cyclisme héroïque, ça a été déroulé dans les Alpes. Et c'est ça que j'avais voulu faire. Et le film, c'est vraiment un bel travail de Villiers et de la production.
Il est disponible maintenant parce que tu m'as envoyé le lien du teaser, en tout cas de la première sur YouTube.
C'est ça, c'est disponible avec aussi de anglais subtitles. Ouais. Et tu peux le regarder en italien avec des anglais dans les subtitles, c'est ok.
Super. Et ça faisait combien de kilomètres au total?
C'est presque 1700 kilomètres. Presque à 35 000 mètres de dénivelé. Pourquoi c'est tout up and down.
Tu montais, tu descendais, il n'y avait pratiquement pas de plat finalement.
Et il y a seulement un peu de plat en Suisse. Après que j'ai fait le Spluga et le San Bernardino Pass, j'ai fait tout le plat jusqu'à le départ de Col du Grand San Bernard. Et après, je suis entré en Italie, Petit San Bernard. L'Isérane aussi. Et après, je suis allé dans le Souza, et après le col de les fenêtres. Et après, Sestrière, Montgenèvre, Isoar, Agnel, et tous les arcs cols de la Tour de France.
Facile. ça te fait quotidiennement, parce que je suis très mauvais en calcul, quotidiennement, ça te faisait des étapes de combien à peu près?
De 300 à 400 kilomètres par journée. Ouais. Pourquoi j'ai fait 4 jours et 23 heures. C'est presque à 300 kilomètres par jour. Ouais, c'est ça.
Et tu dormais, tu avais un véhicule assistance pour dormir ou tu dormais à l'hôtel? Tu faisais
non,
comment?
Non. Les véhicules, c'est seulement pour le film. Oui. Et il y a une caméra, après j'ai fait toute seule et j'ai dormi dans des hôtels. Et tous les jours, je vais appeler mon booking.com application, que c'est la meilleure application pour faire du bikepacking. Oui. Pourquoi tu peux t'arrêter, tu peux chercher quelque chose. Et j'ai dormi 3-4 heures par jour. So, c'est pas vraiment ultra-cyclisme, c'est plus une aventure que des ultra-cyclismes.
Tu fais quelle différence entre ultra-cyclisme, ultra-cycling et aventure? C'est quoi la différence pour toi?
Pour moi, la différence, c'est que dans les ultra-cyclismes, ultra-cycling, le focus, c'est dans la performance. Tu dois faire le maximum possible dans le minimum temps possible. Des aventures, c'est plus des explorations, tu sais. C'est, tu vas à la recherche de quelque chose dans la nature, tu vas essayer d'explorer les montagnes, le désert et après des places vraiment mythiques. Mais c'est pas la même chose pour moi. Adventure, c'est plus voyage et ultracyclisme, c'est plus racing, compétition.
Et là, donc, la traversée des Alpes, c'était plutôt voyage, exploration.
Peut-être c'est un mix.
C'est pourquoi entre les deux, parce que tu voulais le faire le plus vite possible. Tu voulais le faire le plus vite possible,
ouais,
quand même.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, ouais. C'est entre les deux, c'est un mix. C'est mon mix. C'est mon typologie d'interpréter l'aventure et le cyclisme, c'est ça.
C'était important pour toi de faire l'école vraiment mythique italienne et de, comme on voit dans le début du film, de rendre hommage aux grands champions italiens. Des années 50, 60 jusqu'à Marco Pantani, c'était important pour toi?
Ah, c'est important. Pourquoi? Moi, j'ai commencé à faire du cyclisme dans 1994 avec Marco Pantani qui va faire le boom dans l'école mythique de Giro et de Tour de France. C'est ça qui m'a donné l'inspiration pour faire du cyclisme. Et voilà, maintenant je vais seulement faire une traversée et passer dans tous les cols mythiques, le Stelvio, qui c'est les plus mythiques dans les cols alpins pour nous Italiens. Pourquoi? Il y a l'histoire de Fausto Coppi, de Gino Bartali et aussi de Charlie Gaul. So, c'est ça que j'ai voulu faire.
Tu connais bien l'histoire quand même.
Ah ouais, je suis.
Tu cites Fausto Coppi et Bartali, ok, mais Charlie Gaul quand même.
Ah ouais, aussi, et aussi Louison Bobet, qui s'est arrêté dans le col d'Iseran et qui a terminé son carrière après le col d'Iseran. C'est ça. Et il y a aussi dans les films l'histoire de Louison Bobet.
Tu connais l'histoire de Gino Bartali aussi, pendant la guerre?
Ah ouais, ouais, ouais. Dans la guerre, il a fait beaucoup de choses pour les personnes qui sont dans les camps de nazisme. Ça, c'est... Lui, c'est vraiment une grosse personne.
C'est un héros en Italie.
C'est pas seulement un coureur.
Ouais, c'est bien plus que ça, ouais. Donc tu étais à ce festival en Italie, mais tu es revenu très récemment d'Islande également.
Oh oui, je suis allé en Islande juste pour faire une vacance. C'est seulement une vacance. Et j'ai rencontré les petits groupes de Chris Burkhard et Lyle Wilcox.
C'est ce que j'allais te demander. Tu es tombé sur eux en plus. C'est super drôle quand même.
Ouais, ça fait un bon moment. On a partagé notre aventure. On a parlé un peu. On a boit un café. Et après, on a pris la route. Ça a été vraiment, vraiment joli. Ouais.
Et quand... C'est pareil, c'est naïf ou idiot, mais quand tu rencontres par exemple des coureurs de ce calibre, de ce niveau, comme Lyle Wilcox ou Chris Burkhard, peut-être même Payson McElvin, je crois qu'il y était aussi.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous vous dites, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un projet un jour ensemble, ou est-ce que vous buvez un café, vous discutez et chacun repart, ou est-ce que vous vous dites, tiens, on pourrait faire un truc ailleurs ensemble?
Peut-être on va faire quelque chose ensemble, je sais pas, on verra dans les prochaines années. Je ne peux pas dire rien, mais on verra.
D'accord. Bon, s'il se passe un truc, je veux avoir l'exclusivité avant tout le monde.
Ok, ça va.
Et justement, on va parler un petit peu de la Race Across France. Toi, tu es resté longtemps, presque jusqu'au dernier moment, derrière Clément. Est-ce que tu pensais que tu allais faire deuxième derrière Clément, ou est-ce que tu attendais, ou est-ce que c'était vraiment une simple histoire de patience, le moment où tu attendais le moment où il allait vraiment craquer. Et tu essayais de rester derrière lui pour lui mettre la pression, ou est-ce que vraiment tu pensais faire deuxième derrière Clément?
Tu sais, j'ai déjà fait deuxième l'année dernière. Et les deuxièmes places l'année dernière, ça m'est resté ici. Pourquoi? On a fait des grosses batailles jusqu'à la dernière nuit. Et après, lui, ça a été vraiment plus fort que moi. Mmh. Mais tu sais, Clément est vraiment jeune et il est l'avenir de ce sport. Je crois que dans les années prochaines, il va faire vraiment des grosses choses. Mais tu sais, moi, j'ai un peu d'expérience en plus. Et j'ai essayé de faire quelque chose de plus mental que physique. Et c'est ça qu'on a fait une grosse bataille dans la Bourgogne. Mmh. Et après, quand on est arrivés dans les plus grosses cités en Bourgogne, moi, je suis arrêté pour dormir, pour manger, pour boire. Et lui, il m'a dit, non, moi, je vais. Et dans ce moment, j'ai pensé, c'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? On a fait des grosses batailles dans toute la journée et ça a été chaud. On n'a pas boire beaucoup d'eau, on n'a pas mangé beaucoup, et c'est mieux d'arrêter et faire 1-2 heures de sommeil et après aller encore dans la route. Mmh. Et quand je suis parti encore, j'ai peut-être 90 km de gap de Clément. Mmh. Mais je sais que lui, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il n'a pas fait rien de choses pour récupérer. Et je suis un peu plus vieux que Clément, qui c'est vraiment fort, mais c'est jeune. Et on a fait vraiment une bataille mentale. J'ai mis de la pression à Clément toute la journée après les castels de la Loire et les châteaux de la Loire. Et quand j'ai rattrapé Clément, j'ai poussé vraiment très vite pour donner lui pour casser lui mentalement. Et c'est ça qui s'est été. Pourquoi lui, il a vraiment tombé mentalement. Pas, je ne crois pas qu'il s'est tombé physiquement, mais mentalement. Mmh. Pourquoi il a vu que je suis capable de rattraper lui et d'aller plus vite. Et c'est pas normal qu'un coureur se va s'arrêter à 300-400 km dans la fin d'un gros cours. Et ça, c'est le signal qui s'est vraiment tombé mentalement, pas physiquement. Mmh. Mais dans les années prochaines, il va faire vraiment de grosses choses. Pourquoi? C'est vraiment fort, c'est vraiment jeune, c'est vraiment capable de faire des ultracyclismes à haut niveau.
Mmh. Oui, parce qu'il est vraiment très jeune. J'ai fait un épisode avec lui récemment, mais le son était très mauvais, donc je ne l'ai pas diffusé. Mais le jour où, donc c'était 2 semaines avant le départ, il venait de fêter ses 23 ans.
Oui, lui, il a
23 ans, tu te rends compte?
23 ans et moi j'ai 40 ans. C'est presque les doubles. C'est pas.
Ça pourrait être ton fils presque.
Oui,
presque.
Peut-être.
Presque. Ouais, presque. En commençant jeune.
Ok.
Et toi, est-ce que là maintenant tu fais ça, est-ce que tu pourrais te dire à 23 ans j'étais capable de faire ça? Ou quand tu avais 23 ans, non, tu n'en étais pas capable?
Non. Mais quand j'avais 23 ans, il n'y a pas d'ultracyclisme comme ça. Il n'y a pas cette diffusion d'ultracyclisme. Il y a peut-être quelqu'un qui fait le Race Across America, le Paris-Brest-Paris, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas cette diffusion-là. Maintenant, c'est plus facile de commencer à faire du cyclisme. Peut-être aussi Clément, il a beaucoup plus de modèles à s'inspirer pour faire du ultracyclisme. Et maintenant, c'est vraiment mieux le panorama du ultracyclisme.
Tu veux dire que c'est difficile de dans tes années, toi, quand tu étais jeune, ben ça n'existait pas forcément. Il y avait Paris-Brest-Paris, mais
Il n'y a pas beaucoup de courses, il n'y a pas beaucoup de... Ouais. Quand j'ai fait la Race Across France cette année, il y a la Race Across France, il y a le Tripix Bike Race, il y a aussi une autre course en France, Biking Man, il y a beaucoup de courses. Dans 2010-2011, il y a seulement quelques courses, il y a quelque chose en Italie, quelque chose en Amérique, mais il n'y a pas beaucoup de courses.
Est-ce que tu as gardé, parce que Clément, pareil, c'est un cyclotouriste. Il a fait quelques courses sur route, mais il aime pas frotter, tu sais, il aime pas le peloton, en fait. Et du coup, il en a fait très peu, et il a recommencé à faire du vélo. Mais toi, est-ce que Tu t'entraînes comment maintenant, finalement? Est-ce que tu as gardé des habitudes de coureur à aller courir, à rouler avec des jeunes coureurs? Tu as gardé des habitudes de coureur avec du fractionné, de la force en côte, des trucs comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment beaucoup d'endurance?
Non, c'est pas seulement des endurances. Pourquoi? Le niveau, c'est vraiment haut. Et il faut m'entraîner avec des intervalles training aussi. Mmh. Je veux faire de la force. Je vais faire aussi des exercices particuliers. Et pourquoi, si tu veux gagner une course des ultracyclistes maintenant, tu dois être capable de rouler vraiment vite. Et c'est un mix de le vieux ultracyclisme et le nouveau cyclisme. C'est les justes balances de les deux choses. Et c'est pas facile, pourquoi moi, tu sais, moi je suis été professionnel, et après je fais des voyages, après je fais du cyclisme, après je fais des aventures. Moi j'ai fait vraiment beaucoup de choses, peut-être trop de choses, et je suis pas spécifiquement dans une typologie de course seulement.
Ouais.
Et c'est pas facile, pourquoi, par exemple, Ulrich, les Allemands, c'est vraiment bien entraîné dans la route. Et Sofiane s'est bien entraîné dans les courses de 2-3 jours. Et moi, j'ai fait toutes choses. J'ai fait les courses les 2-3 jours. Après, j'ai fait la Transamérique. Après, je vais dans l'hiver. Et après, je fais des aventures. C'est... La polyvalence, c'est pas facile.
Non, mais tu t'en sors bien quand même.
Ah ouais.
Et quand tu me dis, bon, je fais de la force, de l'endurance, des exercices spécifiques, c'est quoi ces exercices spécifiques?
Peut-être je vais faire des sprints dans les montées. Aujourd'hui, par exemple, je fais des forces. Je vais faire de 2-3 minutes parfois, par 4-5-6 fois. Et il va dépendre dans la journée. Et c'est vraiment très spécifique. C'est comme je suis professionnel, c'est peut-être la même chose, mais dans l'endurance. Et après, par exemple, demain, je vais faire seulement des endurances. Je vais faire 6 heures, 7 heures, je vais faire le col de la bonnette, mais doucement, juste pour entraîner les endurances.
Donc, ouais, tu gardes des habitudes comme si tu courais spécifiquement sur route, mais adapté dans un contexte d'endurance.
Ouais, d'endurance.
Mais où tu vas mettre ça avec des gros volumes. Tu vas garder un petit peu d'intensité, mais tu vas aussi faire des gros volumes à côté.
Quelquefois, je vais faire des gros volumes avec des moments avec des autres intensités.
Ouais.
Par exemple, si tu as vu le Transpyrénées avec Sofiane, nous sommes arrivés à faire du sprint dans la dernière montée, qui c'est fou pour le cyclisme. Mais si tu ne sais pas entraîner pour faire du sprint après 1000 km, peut-être tu ne vas pas être vraiment fort dans le sprint. Et c'est pourquoi, par exemple, demain, je vais faire d'endurance, mais peut-être dans la fin des montées, je vais faire un petit sprint, je vais faire 2-3 minutes à haute intensité. Et c'est ça, c'est le juste balancement de intensité et endurance.
Donc tu cherches juste à préparer ton corps à l'imprévu finalement. Si tu dois pousser à un moment donné pour distancer un adversaire, un concurrent, c'est juste pour être prêt à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. On a parlé de la Race Across France. Dans les moments que j'ai rattrapé Clément, j'ai fait 3-4 heures vraiment vraiment vite et j'ai poussé vraiment fort pour distancier Clément le plus possible.
Et sur ton pédalier, t'as quoi comme plateau? T'as un 50, 51, 53,
j'ai
t'as quoi?
J'ai 52 et 36 avant. D'accord. Et derrière, j'ai 11, 30.
Ok. Et ton vélo, tu préfères un vélo super rigide et super léger ou quand même relativement confortable? Tu vas privilégier quoi?
Moi, je suis... j'ai roulé dans un vélo dans les 14, 3 ans. Et c'est pourquoi moi, j'ai pas de problème à rouler avec un vélo très rigide. Moi, j'aime les vélos très rigides, les vélos pour faire des performances. J'ai pas de douleur, j'ai pas de problème. Et ça, c'est vraiment bon pour moi. Pourquoi j'ai pas besoin d'un vélo trop confortable. Ouais. Et un vélo de performance, j'ai utilisé les Villiers Zero. qui c'est un vélo vraiment légère, c'est vraiment rigide, c'est vraiment pour faire des performances. Et ça, c'est mon choix quand je fais des ultra-cyclisme aussi.
Pareil pour les roues, je suppose. Tu vas plutôt choisir des jantes assez hautes en carbone.
J'ai utilisé de carbone et moi, j'aime beaucoup le pas trop haut profil, ouais. Mais peut-être c'est le 28 ou 32, pas plus haut de 32.
D'accord. Et tes sections de pneus, tu vas préférer quoi ? 25, 28, 30, 32 ?
Maintenant, 28. 28 pour ouais. La route et 30 s'il y a aussi de parties de gravel.
Ouais.
Et après, si c'est une course de gravel, on va étudier le parcours. S'il y a beaucoup de gravel, s'il y a beaucoup de passages techniques ou non.
Bon, j'ai une question piège. Chambre à air ou tubeless ?
Tubeless. Tout la vie, tubeless. Moi, j'ai testé les tubeless dans 2004-2005. Pourquoi je suis un Mavic ambassadeur. Et ouais. On a commencé avec les technologies tubeless 4 années avant. Et moi, j'aime beaucoup les tubeless. Pourquoi? Dans les 90% des fois, tu peux tourner à la maison vraiment confortable. Ouais. Mais peut-être s'il y a un gros problème, ouais. Tu dois t'arrêter, tu vas prendre le chambret, tu vas le mettre dans le tubeless. Mais ouais. Par exemple, dans la Transpyrénée, la dernière nuit, j'ai eu un problème avec la roue, mais j'ai juste mis de liquide dans la roue et j'ai un peu pompé et c'est OK.
Et c'est reparti, ouais.
C'est reparti, ouais.
Donc, tu es totalement fan du tubeless.
Ah ouais, maintenant, ouais. C'est, ouais. J'utilise seulement du tubeless. Juste dans l'hiver, quand je vais en Islande ou je vais au Canada, en Alaska, j'ai des chambres. Pourquoi il n'y a pas des pneus, il n'y a pas de pneus tubeless pour la neige.
Bon alors. Je vais juste, tu me donnes un instant, je vais juste célébrer ma victoire du tubeless.
Ok, c'est ça.
Parce qu'on se moque souvent de moi, parce qu'évidemment, en tout terrain, en gravel, en VTT, on est tubeless, il n'y a pas de problème.
On est tubeless, mais dans la route, il y a tous les jours des problèmes avec le disque ne marche pas, le tubeless, ce n'est pas bon. Pourquoi je crois que les cyclistes de la route, c'est plus...
conservateur.
C'est plus conservateur, ouais. Ouais, c'est plus vieux, ouais. C'est plus connecté dans la biotechnologie, c'est ça.
Mais on pourrait ressortir aussi les casques à boudin, tu sais, puis les cale-pieds aux chaussures.
Eh, mais c'est dangereux.
Bon, bah, merci pour cette petite victoire, voilà, c'est très très bien. Avec Sofiane, récemment, on a parlé de ces dernières courses et notamment de celle où tu as roulé avec donc la Transpyrénée avec Ulrich. Et il s'est un petit peu plaint de sa stratégie de poids, donc qu'il avait emmené trop de nourriture et qu'il était trop lourd. Toi, sur les sacoches, tu veilles vraiment au poids que tu emmènes avec toi sur une épreuve de 4 jours, comme une Tout Volcano ou une Transpyrénée?
Moi, j'aime d'être légère. Pourquoi? J'aime rouler vite et j'aime rouler dans la montée. J'aime pousser très vite. Et tu sais, les aventures hivernales, ils m'ont donné un bon entraînement pour le froid. Pour moi, c'est pas un problème de faire du cyclisme dans le froid, dans la nuit, avec la pluie, avec la neige aussi. C'est pas un problème. J'ai pas besoin de beaucoup de choses. Peut-être juste pour la pluie. Quelque chose pour la pluie et après il y a quelque chose pour la main et je peux rouler dans le jour et la nuit avec pas de problème. Mais Sofiane, peut-être il y a plus poids, pourquoi il a besoin peut-être de plus choses. Mais c'est part de stratégie. Peut-être Sofiane il dort pas mais il a besoin de plus choses. Moi je dors de plus mais j'ai pas besoin de le poids. Et Ulrich, c'est très vite et il dort pas et après il a rien. C'est magnifique. Pourquoi? Chaque coureur a son stratégie et c'est complètement personnel. Et c'est vraiment joli de rouler avec ces champions. Pourquoi tu peux garder quand Sofiane ou Ulrich ou Josh Hibbett ou des autres coureurs va faire la course. Et c'est vraiment bon, c'est joli.
Tu réfléchis un petit peu avant une course à la stratégie, en voyant qui est engagé. Est-ce que tu réfléchis à la stratégie vraiment que tu vas utiliser si avec toi tu sais que tu vas partir avec Ulrich, avec Sofiane, avec Steven?
Oh, la stratégie, par exemple, c'est vraiment facile quand il y a Sofiane. Pourquoi? Quand il y a une course avec Sofiane, tu sais qu'il faut pas dormir. Et il faut rouler et rouler dans la jour la nuit, et ça c'est vraiment un problème. Pourquoi? C'est pas facile de pas dormir, et c'est vraiment une grosse caractéristique de Sofiane qui c'est vraiment fort, et c'est un champion. Pourquoi? Juste un champion, c'est capable de pas dormir, de faire du performance, de faire un sprint dans une Transpyrénée. Et comme il y a 16 champions, il faut adapter la stratégie, il faut être vraiment fort.
Alors, je lui avais demandé comment lui s'adapte aux coureurs comme toi ou aux coureurs comme Ulrich, qui sont capables de rouler très fort. Lui, il va peut-être rouler moins vite, mais justement, il dort pas.
Mais lui, il roule vite.
Il roule.
Dans les dernières courses, il a vraiment amélioré son niveau. Oui, je crois qu'il a vraiment amélioré. Quand on s'est arrivé à Saint-Sébastien, la Transpyrénée, il a fait vraiment une grosse sprint. C'est vraiment fort.
Il a perdu du poids en plus avec sa... Tu sais, il s'est blessé cet hiver dans Paris, au genou. Et il m'a expliqué qu'il a fait très, très attention à son poids. Il a vraiment fait attention à ce qu'il mangeait. Et du coup, il a perdu du poids. Donc, il est un peu plus performant grâce à ça.
Oui, c'est plus performant dans les montées.
Ouais, il est meilleur pour ça. Mais toi, par rapport au sommeil, donc tu peux rouler vite, mais est-ce que tu essayes de dormir moins? Est-ce que tu te prépares à dormir moins, ou est-ce que tu t'entraînes à faire des gros blocs sans sommeil, comme par exemple fait Clément? Clément, il fait ça, il part toute la nuit et il va rouler avec un groupe le dimanche matin. Toi, comment tu fais pour travailler ça?
Moi, j'aime pas le quand tu dois pas dormir, tu sais. Moi, je peux faire des roulées vite. Mais maintenant, je dois adapter mon physique et mon mental à pas dormir. Et il y a pas, je crois qu'il y a pas un entraînement. Mon stratégie, c'est de dormir le plus possible dans les jours avant la course. Dans la Race Across France, j'ai fait peut-être 2 ou 3 jours dans ma chambre, tranquille. J'ai dormi beaucoup. Et j'ai dormi encore et encore pour recharger ma batterie. Et dans la Race Across France, ça a été. Pourquoi? J'ai fait peut-être une heure par jour à dormir, qui c'est pas beaucoup. Et si Sofiane, ça a été plus vite dans cette année, moi, je suis plus capable de pas dormir dans cette année. Et on va voir dans les prochaines courses si je suis meilleur que lui ou non, mais je ne sais pas.
Est-ce que tu... Là, évidemment, tu viens de gagner la Race Across France. Est-ce que tu envisages des courses beaucoup plus longues, ou est-ce que tu as déjà fait des courses beaucoup plus longues de 3000, 4000, genre transcontinental?
Moi, j'ai fait le Transamérique dans 2019 et j'ai fait 3e. Et pour moi, c'est un gros résultat. Pourquoi? Le Transamérique, ce n'est pas comme la Race Across France. Il n'y a pas de montées. Il y a quelques montées, mais tu sais, en Amérique, il y a de longues montées, mais le pourcentage, c'est vraiment bas. C'est 2-3%. Ça, c'est pour les gens qui sont capables de rouler très vite dans le plat. Et c'est pas pour un grimpeur comme moi. Ouais. Mais peut-être je vais tourner la Transamérique, je sais pas, mais peut-être dans l'année prochaine je vais essayer de faire encore mieux à la Transamérique, je sais pas.
Qu'est-ce qui te motive quand tu choisis une course? Qu'est-ce qui te motiverait à retourner à la Transamérica, à part la vengeance? Qu'est-ce qui te motiverait à aller sur celle-là ou d'en choisir une autre?
Je suis motivé dans les autres coureurs. Moi, j'aime beaucoup de faire. J'ai préféré faire 3e avec Sofiane et Ulrich, qui gagnaient une course où j'ai seulement moi. Pourquoi? C'est pas motivant pour moi. Et ça, c'est une question. L'autre question, c'est de faire mieux de moi. Si je vais tourner à la Transamérique, je vais essayer de faire mieux de 20 jours à 6 heures que j'ai fait des années avant. Et ça, c'est faire de mieux, c'est mon premier objectif.
Tu as monté l'Everest, je crois.
J'ai fait les base camps de l'Everest. Juste à 5300 mètres.
Ah ouais, c'est décevant. On va pas en parler. Laisse tomber. Okay. Raconte-moi un petit peu ça quand même. Parce que j'ai l'impression que ça t'a marqué énormément et que ça reste le truc le plus dingue, le plus fort que tu aies fait.
Peut-être le Népal, le Everest et après, avant, le Gobi Desert, ça a été vraiment de sacrées aventures. Pourquoi j'ai eu la possibilité d'explorer une nation, j'ai exploré un désert, j'ai exploré les Himalayas, j'ai aussi connu de vraiment très beaux personnes. Pourquoi le Sherpa du Népal et les nomades de Mongolie sont vraiment des beaux gens. Et ça, le base camp de l'Everest, ça a été vraiment une unique aventure. Pourquoi j'ai fait quelque chose qui c'est pas usual avec un vélo. Pourquoi dans les derniers 30-40 km, tu dois pousser les vélos et tu dois monter avec les vélos dans ton backpack. Et ça a été vraiment, vraiment bon. Et quand je suis arrivé dans le base camp et j'ai vu l'Everest devant moi, ça a été vraiment émotionnant. Vraiment.
Pareil, question idiote. Pourquoi tu n'as pas pu aller plus haut?
Oh, pourquoi? Je ne suis pas un alpiniste et je ne suis pas capable d'accord. de faire des alpinismes.
Je n'y suis jamais allé, je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je te pose juste la question.
Je suis arrivé dans les maximum points où tu sais tu peux arriver avec un vélo.
D'accord.
Et de le base camp to le top of the mountain, tu dois être un alpiniste. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses, des passages, tu dois te grimper, c'est pas pour cycliste, c'est juste pour alpiniste.
Et le désert de Gobi, c'était quoi? Alors, rappelle-moi déjà, c'est dans quel pays le désert de Gobi?
C'est Mongolie, Mongolia.
Ouais.
Je suis allé en Mongolie dans 2020 et j'ai fait le désert du Gobi en hiver. Et le désert du Gobi, dans l'hiver, c'est un des plus froids dans le monde. J'ai roulé à moins 30, moins 35 degrés. Et j'ai dormi 15-6 jours complètement seul dans ma petite tente dans le désert. Et ça a été vraiment une expérience unique.
Et quand tu reviens de ça dans la vie quotidienne, tu habites où en Italie?
Moi, j'habite à Rome. Mais ouais. j'ai travaillé beaucoup pour mon sponsor. J'ai beaucoup de voyages dans toute l'Italie. Je vais dans les Alpes à Bormio. Je vais aussi dans d'autres parcs pour faire des activités avec mon sponsor.
Et quand tu reviens, imaginons, tu reviens à Rome, chez toi.
Moi, je reviens à Rome, ouais.
Tu reviens à Rome. Quand tu reviens chez toi, tu te sens comment? Tu es content de revenir à la maison, de revenir en Italie avec tes habitudes, avec une langue que tu connais, une culture, etc. Ou est-ce que tu te sens un peu déconnecté justement de la vie quotidienne en Italie par rapport à ce que tu viens de vivre?
Tu sais, quand tu vives quelque chose vraiment unique, vraiment toute seule dans les déserts, quand tu as pas tu sens rien. Pourquoi? Il y a pas de personne, il y a pas de voiture, il y a pas de trafic, il y a rien du tout. Quand j'arrive, je suis un peu déconnecté, mais je suis vraiment moi j'aime tourner à la maison, j'aime mon habitude, j'aime ma famille, et c'est ça qui c'est le juste balance de adventure et real life. Et c'est ça, j'aime faire des aventures, mais j'aime tourner aussi à la maison. Et j'ai rejoint mon personnel balancement.
Et quand tu reviens à la maison, tu es encore un petit peu Omar l'aventurier ou tu es Omar, juste Omar? Ou tu...
Moi, je crois que moi, je suis Omar et il y a plus d'aspects d'Omar. Il y a l'Omar aventurier, l'Omar cycliste, l'Omar qui aime garder la TV. C'est ça pour moi, c'est toute chose dans une seule marque. qui c'est capable de faire la vie dans la cité et c'est capable d'aller dans l'Everest, c'est la même chose.
Mais alors, tu regardes quoi à la télé?
du sport. Ouais. Je ne regarde pas beaucoup de télé. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de belles choses
en
télé.
Tu ne regardes pas Netflix alors?
Non, moi, je peux faire les documentaires. J'aime beaucoup le National Geographic. Je prends de l'inspiration pour aller avec mon vélo dans les parties les plus différentes dans le monde. Et c'est ça.
Et alors, imaginons, sur National Geographic, tu tombes sur un documentaire vraiment intéressant, sur une contrée, un pays lointain où tu n'es jamais allé. Qu'est-ce que tu te dis?
Je vais essayer dans mon portable, s'il y a la possibilité de faire quelque chose avec les vélos. Et je vais étudier, je vais chercher les maps, je vais faire quelque chose pour aller dans cette partie du monde avec le vélo.
Et si personne n'y est jamais allé avant avec un vélo, est-ce que ça te motive encore plus?
Oui, c'est ça. Ma recherche, c'est tout fait quelque chose d'unique. Par exemple, le Gobi Desert, il n'y a pas de personne qui a fait le Gobi Desert en hiver avec le vélo. Et moi, j'ai été le premier qui a fait cette partie du monde. Et pour moi, c'est vraiment une stimule à faire mieux et à faire pour premier quelque chose dans le monde avec mon vélo.
Quand tu as décidé de ne plus être cycliste pro et que tu as décidé d'être aventurier, est-ce que ça a été difficile avec les sponsors au début ou est-ce que tout de suite tu as eu du soutien ou est-ce qu'au contraire il a fallu un petit peu de temps pour vraiment te forger un personnage de Omar l'aventurier, ou est-ce que ça a été facile?
Quand j'ai arrêté avec les professionnels, j'ai fait 2-3 ans avec pas beaucoup du vélo. J'ai travaillé comme graphique. Et j'ai fait des websites, j'ai fait des graphiques avec le portable et j'ai mon travail, mon activité. Et après, j'ai commencé à penser, mais pourquoi pas, je vais prendre mon vélo pour faire des voyages. Et j'ai fait le premier voyage, ça a été de Lourdes à Santiago de Compostela. Et j'ai roulé 1300 km en 4 jours. Et quand je suis tourné à la maison, j'ai dit « Ok, je vais faire Les Aventurières ». Et j'ai commencé à faire des voyages, des courses en vélo, des ultracyclismes. Et j'ai commencé au début à chercher des sponsors. De petits sponsors au début et après Mavic il m'a appelé et quand Mavic il m'a appelé il m'a demandé si je voulais être une ambassadeur. Ça a été le point de start de toute ma carrière parce qu'après Mavic c'est arrivé Villiers et après c'est arrivé Shimano et après mon activité ça a été gros et j'ai la possibilité de faire de longues distances, des aventures dans le monde. Je suis capable de faire des activités avec mon sponsor. C'est vraiment un travail et maintenant, je fais seulement le cycliste. Et l'Omar Aventurière, c'est un travail.
Tu es une entreprise en fait maintenant.
Ah oui, c'est une entreprise. Pourquoi? Je fais du speech dans les écoles. Dans ma partenaire, je vais parler du vélo, je vais parler d'aventure. Je vais motiver les personnes à faire quelque chose de spécial dans la vie. Et c'est ça, c'est vraiment une entreprise.
Pourquoi ton premier voyage, tu as choisi Lourdes-Compostelle? T'as eu une révélation à Compostelle alors?
Non, je n'ai pas eu une révélation. Mais tu sais que Compostelle, c'est vraiment une place où beaucoup de personnes veulent aller avec le backpack, avec le vélo, pour chercher quelque chose. Et moi, j'ai trouvé mon inspiration pour faire du vélo professionnel dans les ambits de l'ultracyclisme.
Comment tu vois l'avenir de l'ultra ou du bikepacking vraiment en mode course? Est-ce que tu penses qu'il va y en avoir de plus en plus, que ça va devenir de plus en plus à la mode et presque de plus en plus dangereux pour les néophytes? Comment tu vois l'évolution, toi, avec ces histoires de sommeil, de distance, où beaucoup veulent tenter l'aventure en n'étant peut-être pas forcément prêts?
C'est une belle question. Et tu sais, moi, je suis vraiment professionnel. Mon attitude, c'est d'être le plus professionnel possible. Et si nous voulons que l'ultracyclisme, le bikepacking devienne un vrai sport, nous avons besoin de règles et nous avons besoin des fédérations, nous avons besoin d'augmenter la sécurité. Pourquoi, tu sais, il y a une femme qui s'est décédée dans la North Cape, peut-être en Lituanie, je crois.
Oui, elle s'est fait heurter par une voiture.
Ok, et aussi Michael, tu sais, c'est décédé en Australie. Ça, c'est pas acceptable. Si on voulait que bikepacking et ultracyclisme va devenir un vrai sport, on a besoin de règles. Et on a besoin de faire quelque chose pour la sécurité. On a besoin d'imposer que chaque coureur s'arrête pour dormir. Pour que moi, ou Sofiane, ou des athlètes pros, nous sommes capables de ne pas dormir. Nous sommes capables de prendre des risques. Nous sommes des pros. Nous pouvons prendre des risques. Mais une personne qui voudrait seulement faire un voyage, qui voudrait faire un événement de backpacking, juste pour entraîner, juste pour voyager avec des amis, c'est pas acceptable qu'il va mourir pour faire du vélo. Et si on voulait qu'il y a beaucoup de personnes qui va commencer à faire du ultracyclisme, on a besoin de règles. On a besoin de règles.
Donc, qu'est-ce que tu penses du débat actuel sur la réglementation du sommeil sur les épreuves, d'imposer par exemple un temps de repos toutes les 24 heures? Là, on l'a vu après la Race Across France, on l'a vu après le Biking Man Portugal, je crois, et ça discute un petit peu, tu vois, on voit qu'il y a des abandons à cause du sommeil.
Mais à la Race Across France, il n'y a pas d'imposition de sommeil.
Non, il n'y en a pas encore.
Il n'y en a pas encore. Okay.
Justement, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a ni fédération.
Il y a peut-être seulement une course, le Transatlantic Way, peut-être, dans le Grande-Bretagne, qu'il va imposer 2 ou 3 heures des arrêts chaque jour, dans les 24 heures.
Et si toi, on te disait au départ d'une Race Across France ou d'une autre course, disons au-delà de 5 jours, tu serais d'accord ou pas, toi?
Moi, je vais être d'accord. Tu sais, moi, j'aime de rouler vite et j'aime aussi de dormir un peu. Pas beaucoup,
Ah oui, non, mais c'est uniquement. Ah oui, non, mais toi, oui, évidemment, tu vas être d'accord parce que si tu dois t'arrêter, Sofiane aussi devra s'arrêter. Donc pour toi, c'est bien.
Pour moi, c'est bien. Mais je suis en train de. C'est plus gros la question. La question, c'est pas.
Oui.
C'est pas que pour moi ou pour Sofiane ou pour Ruiz ou pour Josh ou pour Mattia. C'est pas pour nous. C'est pour toutes les personnes qui vont faire du bikepacking, tout le monde qui va faire du ultracyclisme. Peut-être maintenant, on a besoin de règles et on a besoin d'imposer plus de règles pour la sécurité.
Imposer donc un petit peu de sommeil quand même pour éviter les accidents.
Pour éviter les accidents. Et tu sais, si tu vas essayer de faire un ultracyclisme, un événement d'ultracyclisme, peut-être, si tu t'arrêtes 2-3 heures par jour, après, tu vas être capable de rouler vraiment très, très vite. Plus vite que si tu ne dors pas. Ça, c'est la question, juste. Et tu ne dois pas penser que si tu dors 2-3 heures, ce n'est pas ultra, c'est normal. Pourquoi une personne normale ne va pas dormir seulement 2-3 heures par jour, tu sais? Une personne normale dort 6 heures, 7 heures, 8 heures. C'est aussi des ultras si tu dors 2 ou 3 heures. C'est pas moins ultra, c'est seulement plus secure, qui c'est une autre question.
Ouais. Et toi, là, tu vas faire la Tout Volcano, peut-être.
Peut-être, ouais.
T'es quoi tes projets, est-ce que t'as un rêve, et au moins pour l'année prochaine, quels sont tes projets?
Moi, je peux pas dire rien de mon rêve, mon prochain rêve. Pourquoi? J'ai beaucoup de gros rêves dans l'hiver, mais je sais pas avec le Covid s'il va être la possibilité de faire du voyage dans des pays loin de la maison. Et je verrai dans les prochains 2-3 mois si c'est possible ou non. Et je vais te le dire. Aussi.
Ah bah oui, non mais tu m'écris directement.
Ah ouais, je vais t'écrire. Okay.
Ah bah oui, c'est sûr et certain. Et dis donc Omar, je crois bien qu'on a fait à peu près le tour. Je crois bien qu'on a tout dit.
Ok, et oui.
Je crois bien que tout est dit. Alors, je l'aurais fait également au début de l'épisode, mais vraiment, Omar, merci d'avoir fait l'effort de préparer en français, parce que même si tu parles bien français, toi, tu pensais ne pas parler suffisamment bien, et je t'assure que tu parles hyper bien, et j'aimerais parler italien comme tu parles français, j'adorerais vraiment ça, j'aimerais tellement ça.
Ok, la prochaine fois, on va le faire en italien, et je vais mettre les podcasts sur tout ma Facebook, Instagram en italien.
Aucun problème. J'ai un pote italien, j'ai un ami italien qui est prêt à venir traduire avec moi. Donc aucun problème.
Parfait.
Et je ne connais qu'un seul mot en italien, donc tout va bien. Sinistra.
Ok. Sinistra et destra à droite.
Parce que il y a 3 ans, j'ai fait le grand fondo Strade Bianche.
Ok.
Et je me faisais remonter par le côté et les gars disaient, ils passaient à côté de moi, ils faisaient sinistra, sinistra.
Ah ok, c'est ça, ouais.
C'est le seul mot que j'ai retenu.
Ouais, mais les grands fondos s'en fout.
Mais c'était super en tout cas. Du coup, merci mille fois d'avoir fait l'effort en français, parce qu'on aurait pu le faire en italien ou en plus facile en anglais, mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Et là, vraiment, mille merci d'avoir fait l'effort en français. Donc maintenant, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc je te l'avais expliqué, je vais sortir de la salle.
Ok.
Et tu restes devant ton écran et tu dis ce que tu veux en italien. Et là, en italien. Et là, je ferai traduire.
Ok, parfait.
Donc Florian Ponzio va traduire. Ne t'inquiète pas, tu peux dire tout ce que tu veux.
Ok.
Et ça peut durer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Tu dis tout ce que tu veux.
Oh non, pas de problème. Juste 1 minute.
Tu dis ce que tu veux et tu prends le temps qu'il te faut. Juste un détail. Quand tu as terminé, tu laisses ton ordinateur ouvert avec cette page.
Ok.
D'accord. Et quand ça sera bon, je t'enverrai un message.
Ok, parfait.
Il faut juste que je retélécharge les fichiers après.
Okay, parfait.
Super. Bon, Omar. Merci, mais franchement, merci. Merci mille fois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un jour. Ok?
Oh, ouais.
Super.
Au revoir. Merci. Bonne nuit.
Bonne nuit, effectivement.
Maintenant, bonne nuit. Ciao, Richard. Ciao, tutti gli amici francesi.
Salut, Richard. Salut, les amis français. Vous savez à quel point j'aime la France et surtout faire du vélo en France. C'est la raison pour laquelle je voulais absolument revenir en France pour gagner la Race Across France après avoir gagné le Tour du Mont Blanc et en Provence. Le cyclisme en France est un peu comme en Italie. Nous sommes les deux pères du cyclisme et de l'ultracyclisme. Nous devons être fiers du fait que les grands coureurs historiques du cyclisme sont italiens et français.
Sono stati italiani e francesi, e quindi,
nous ne devons pas perdre nos origines. C'est magnifique le fait que cette rivalité entre cousins aboutisse ce soir à une belle discussion entre un Italien et un Français. On se revoit bientôt sur les routes dans les Alpes et sur toutes les routes où s'est écrit le grand cyclisme.
Ciao, ciao à tutti.